19h, une présentation de Charles Abosoloba. Bonsoir Charles.
Bonsoir Armand Nonga, bonsoir à tous. Il est 20h, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur le poste national de la CRTV. À la une de l'actualité ce soir, les mines avec la 4e convention internationale et exposition qui s'est refermée ce jour à Yaoundé. Un seul vœu à l'issue de cette rencontre qui a mobilisé 50 pays dans la capitale camerounaise. L'industrialisation du secteur minier au Cameroun, on fait le point dans cette édition. Un autre événement d'envergure que le Cameroun s'apprête à abriter, c'est la 30e Assemblée parlementaire d'Afrique francophone, l'APF. C'est du 28 au 30 mai prochain. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Eton, a donné une conférence de presse ce jour à Yaoundé. Objectif, dévoiler le thème et les contours de la rencontre. Et puis en sport, Jeux universitaires 2024, le kick-off c'est demain samedi. La ville de Garoua dans le Nord vibre déjà au rythme de l'événement. Premières ambiances à suivre dans cette édition. Voilà pour le programme. Merci de rester fidèle à la CRTV. La 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun a refermé ses portes ce vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé. Après 2 jours de travaux, les exposants se réjouissent des potentialités énormes du Cameroun en matière de richesses minières. Le reportage de Séraphin Jikam.
Une centaine d'exposants au Palais des Congrès de Yaoundé, venus des pays membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, des entreprises minières et des expositions grandeur nature du riche potentiel minier du Cameroun. Mbodi Abdoul du Sénégal, exposant.
Le Cameroun est un grand pays avec un potentiel géologique, mais dans le passé, on a vu qu'il n'y avait pas eu beaucoup de travaux de recherche. Mais là, actuellement, avec la transformation, ça a attiré plus d'investisseurs.
Des échantillons de minerais exposés, le Cameroun, et tout le monde l'a reconnu, est un scandale en termes de ressources minières. Bauxite, nickel, cobalt, or, lithium, cuivre, que de richesses, source de fascination et d'incitation à l'investissement.
Je suis venu au Cameroun pour l'octroi de 3 permis d'exploration des mines, or et substances connexes.
Les équipements de sécurité pour les employés des sites miniers intéressent aussi les investisseurs. Thomas Sanka.
Nous voulons véritablement intervenir au niveau de la gestion des risques avec des ouvriers qui la plupart du temps n'ont pas d'équipement requis et adapté pour travailler.
Le 6 mai, Convention internationale des mines et expositions du Cameroun s'achève avec d'heureuses perspectives dans la production et la transformation minière. Au Cameroun.
Il est nécessaire d'affecter 15% des productions minières à la transformation locale et mettre sur pied un code minier communautaire. Ce sont là quelques résolutions de cette Convention internationale des mines et expositions du Cameroun. À la cérémonie de clôture au Palais des Congrès de Yaoundé ce soir, le ministre par intérim en charge des mines a salué la contribution des participants venus de 50 pays pour ces assises. Il a par ailleurs émis le vœu que les recommandations formulées soit mise en œuvre pour l'industrialisation du secteur minier au Cameroun. Écoutons le professeur Foukalixtus Gentry au micro de Séraphin Jikama.
Nous venons de clôturer la convention internationale de mines exposition du Cameroun et je peux vous assurer que pendant ces 2 jours, les retombées sont énormes. Il y a eu les échanges, on a signé les conventions entre l'Union européenne et le Cameroun. Tout à l'heure, il y aura la déclaration de Yaoundé qui va conduire comment les pays, l'OIACP, vont gérer leurs minéraux critiques. On vient aussi de signer les conventions entre les sociétés d'infrastructure et logistique avec le ministère des Mines. Nous avons vu les sociétés qui vont transformer le paysage minier avec les technologies innovantes, comme le système à vase clos. Comme vous le savez, d'ici 6 mois, l'or va être traité seulement dans le système à vase clos. On a vu les plus grands investisseurs du monde, de tous les continents, qui ont pris part à cette assise. Et sans faire une déclaration écrite, Yaoundé a écrit son nom comme un nouveau centre de négociation des finances pour les projets miniers.
Le ministre par intérim en charge des mines, Fou Calixtus Gentry, au micro de Séraphin Ndjikam. Et dans le même registre, les ministres des mines de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique viennent de se séparer à Yaoundé après avoir harmonisé leur point de vue sur l'accès des pays demandeurs aux matières premières critiques. À l'unanimité, les 79 ambassadeurs ont adopté une position dite de l'Organisation des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et approuve le plan d'action des ministres des mines de l'organisation au vu de l'acte législatif de l'Union européenne visant à garantir un accès aux matières premières critiques. La décision privilégie le développement des pays à partir de leurs ressources minérales et le positionnement de l'OEACP dans le processus de transition énergétique et numérique. Elle sera soumise au prochain Conseil des ministres pour adoption. Dans la suite de l'actualité, le Cameroun fin prêt pour accueillir la 30e Assemblée régionale de l'Assemblée parlementaire de l'Afrique francophone, en abrégé APF, du 28 au 30 mai prochain. C'est l'essentiel à retenir du point de presse que le président de la section APF Cameroun a donné ce jour à Yaoundé. L'honorable Hilarion Eton, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a dévoilé les grandes orientations et le thème qui vont meubler et les thèmes qui vont meubler les travaux. Plus de 20 délégations composées des pays membres de l'APF vont prendre part aux travaux au Palais des Congrès de Yaoundé. Faisons le point avec Julienne Paul-Ngono.
Les travaux de la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF vont se dérouler dans un contexte particulier au Cameroun. Depuis 2013, comme l'a souligné le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le Parlement camerounais comprend désormais deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est la raison pour laquelle les travaux seront ouverts par le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kava Yegye Dibril. Et c'est le président du Sénat, Marcel Niak Difenji, qui va clôturer les activités au Palais des Congrès de Yaoundé. Par ailleurs, le bureau de la section APF Cameroun est composé des députés et des sénateurs. Bon nombre d'entre eux étaient présents pendant le point de presse donné ce jour par l'honorable Hilarion Eton, président de la section APF Cameroun. Occasion pour le coordonnateur général de la 30e Assemblée de l'APF de dévoiler les deux thèmes qui vont servir de fil conducteur aux travaux. Les experts vont plancher sur le recours au dialogue politique et le fonctionnement des institutions. Le deuxième thème porte sur la diplomatie parlementaire, quelle utilité pour l'Afrique francophone. Et parlant justement de l'APF, l'honorable Hilarion Eton a présenté l'idéologie de cette institution, reconnue comme assemblée représentative et consultative de la francophonie. À ce titre, l'APF adopte des résolutions sur des sujets intéressant la communauté francophone dans le domaine politique, économique, social, culturel, éducatif et environnemental. L'APF se compose des parlements et des organisations interparlementaires partageant les valeurs de la charte de la francophonie, à l'instar du Cameroun. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale s'est félicité de la tenue à Yaoundé de la 30e Assemblée régionale de l'Afrique sous la houlette du président de la République, son Excellence Paul Biya. Plus de 20 délégations sont attendues à Yaoundé.
Être des soldats aguerris, intègres et aptes à défendre les intérêts de la nation et ceux des populations menacées par la crise sécuritaire dans le sud-ouest. Recommandation ce vendredi à plus de 900 stagiaires militaires du bataillon d'intervention rapide arrivés en fin de stage des CAT 2 et 3, première vague. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le général des divisions Philippe Mpaye, commandant les écoles et centres d'instruction interarmés à l'esplanade de la base du Bir à Manao. À Limbé. Salvador Becha pour les précisions.
Ils sont 943 militaires du BIR, dont 682 titulaires du CAT 3 interarmée et 261 détenteurs du CAT 2 infanterie commando. Après 5 mois de formation pratique et théorique, ils ont désormais les aptitudes et capacités requises pour la suite de leur carrière.
Caporal Quinfa Fabrice, major du CAT 2 infanterie commando. Durant ces 5 mois, nous avons appris des choses opérationnelles au combat. Moi, personnellement, au sein d'une section, je peux amener un groupe au combat pour protéger la population.
Leur formation qui s'est déroulée selon la rigueur militaire a un but précis. Lieutenant-colonel Ousmane Tapélé, commandant du centre d'instruction d'instruction.
Les stages que nous avons finis aujourd'hui ont permis de qualifier nos soldats à être des chefs de groupe et des sous-officiers confirmés. Nous attendons de ces soldats qu'ils accomplissent leur mission avec professionnalisme au service des populations auxquelles nous attachons une très grande importance.
En présence du général de division Philippe Paille, commandant les écoles et centres d'instruction interarmées de la sous-préfète de Limbetroit et du conseil des chefs traditionnels du FACO, les récipiendaires, dans une ferveur populaire, renouvellent leur engagement à la patrie en marquant le pas militaire qui solidifie une fois de plus le lien armée et nation. Manawabe, Salvador Becha, CR TV.
Restons dans le sud-ouest à Ikondo-Titi où les autorités œuvrent pour une reprise rapide des activités commerciales au débarcadère de cet arrondissement. Un incendie déclaré dans ce grand marché transfrontalier hier a causé d'importants dégâts matériels. Le sous-préfet et le maire d'Ikondo-Titi viennent de visiter le site afin d'évaluer les dégâts. Le reportage de Stéphane Tala.
Après le passage des flammes, le débarcadère des Kondo-Titi affiche un visage peu reluisant. Le poste douanier, les postes d'émi-immigration et de sécurité, ainsi que d'autres services bâtis en bois sont réduits à cendres. Sur place, les témoins déclarent un incendie survenu le jeudi 23 mai aux environs de 13 heures. Un feu de bois allumé non loin d'un véhicule de transport des marchandises et dans lequel était stocké du carburant serait à l'origine de l'incident. Pas de perte en vies humaines, mais les autorités locales et les usagers déplorent d'importants dégâts matériels. Un coup dur pour ce débarcadère, principal cadre d'échanges commerciaux avec le Nigeria voisin. Le sous-préfet Fou Francis Mou rejette la thèse d'une main criminelle derrière l'incident dont seule l'enquête ouverte déterminera les causes exactes. Pour sa part, le maire des Kondo-Titi, Margaret Outam, appelle à l'urgente solidarité et à l'engagement de toutes les parties prenantes. Il est question de mettre en place des structures provisoires en faveur de la reprise des activités en attendant les solutions durables. Boya, Stéphane Tala, CRTV.
Un autre incendie, c'est celui qui a consumé une trentaine de boutiques au marché central de Douala. Le sinistre s'est déclaré hier soir aux environs de minuit. Les éléments du 20e groupement des sapeurs-pompiers de Douala ont pu maîtriser les flammes. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaa Dibois, a effectué une descente sur les lieux du sinistre. D'autres détails dans ce reportage de José Gaïtan Changa de CRTV Littoral.
Sur les lieux du sinistre, une odeur forte de brûlé se dégage sur les murs. Les compteurs placardés sont cramés. Les fils électriques pendent de part et d'autre. Les derniers foyers sont éteints par les moyens du bord. On sauve ce qu'on peut.
Il fait dans les chapeaux, tout est brûlé, tu sais pas par où commencer.
Devant les babouches, les chaussures, c'est tout perdu. C'était ma vie ici. La lumière vient, ça passe, ça vient, ça passe.
La nuit précédente fut particulièrement longue pour les pompiers. Tout serait parti d'un court-circuit causé par un ventilateur allumé, oublié par un commerçant du marché central de Douala aux encablures de minuit. Résultat des courses, une trentaine de boutiques consumées. Samuel Dieudonné Ivaa Dibois, gouverneur de la région du littoral.
Nous voulons dire que ce n'est pas tout le marché central qui a brûlé, mais nous regrettons que ce qui a été fait soit dans une estimation sérieuse. Et je prie les commerçants ainsi victimes à ne pas baisser les bras. Nous tenons à dire que les mesures de sécurité en matière de lutte contre l'incendie doivent toujours être respectées.
Les soldats du feu du 20e groupement des sapeurs-pompiers de Douala ont eu toutes sortes de difficultés à accéder au marché central du fait de l'occupation anarchique de la voie publique.
Ces étals empêchent la progression des sapeurs-pompiers pour pouvoir faire leur travail convenablement.
Le gouverneur de la région du littoral a prescrit l'ouverture d'une enquête avant toute autre action. Douala, José Gaïtan Tsanga, CRTV.
Vous faites bien d'écouter les 20h sur le poste national de la CRTV, les 20h passées de 15 minutes. L'actualité ce soir, c'est également l'inauguration du siège de l'Institut international des assurances. La cérémonie couplée à la commémoration des 50 ans de l'Institut a eu lieu ce jour à Yaoundé Fandena en présence du ministre des Finances. Avant la coupure du ruban symbolique, Lupol Motazé a invité les responsables et autres acteurs des assurances à révolutionner l'assurance par une démarche qualité. Marie-Monique Mbozor.
Le siège de l'Institut international des assurances de Yaoundé, en abrégé IIA, situé au quartier Fandena, s'impose par l'espace occupé, soit 13 395 mètres carrés, et le joyau architectural bâti sur le site. Cinq entités regroupées en deux grands blocs de trois et de six niveaux. L'édifice qui est l'œuvre des 14 États membres de la CIMA, la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, dit l'engagement des États africains à former les cadres d'assurance capables d'en faire un bien de consommation courante. Le directeur général de l'Institut, le président de la Fédération des sociétés des droits d'assurance, le président du conseil d'administration, tout comme le ministre des Finances, ont relevé l'importance de la formation des ressources humaines pour une meilleure pénétration de l'assurance, dont le taux est simplement de 1,5% du produit intérieur brut des États membres. Au moment où l'Institut commémore ses 50 ans d'existence, les attentes vont de l'entretien du joyau architectural du cinquantenaire d'un coût total de 3,520 milliards de francs CFA au positionnement de l'Institut comme pôle d'excellence et à l'adoption d'une véritable démarche qualité. À l'occasion, des médailles d'honneur du travail ont été décernées aux récipiendaires. La coupure symbolique du ruban et la découverte de la plaque commémorative par le ministre des Finances, ayant à ses côtés le gouverneur de la région du centre, le préfet du Mfundi et le sous-préfet de Yaoundé 5, ont précédé la visite des bâtiments, symbole de l'intégration sous-régionale.
Ce vendredi est un jour mémorable pour la directrice générale du CAMTEL, Judith Yassondé Achidi, qui est devenue la première femme camerounaise à présider le conseil d'administration de l'Organisation régionale africaine de communication par satellite baptisée RASCOM. Elle a été élue à l'issue du 74e conseil d'administration de l'organisation qui s'est tenu à Yaoundé. Les détails avec Alain-Georges Bikélé.
Trois jours, c'est le temps qu'aura duré cette 74e session du conseil d'administration de l'Organisation régionale africaine de télécommunications par satellite, RASCOM. Les assises de Yaoundé ont permis de se pencher véritablement sur des problèmes de télécommunications en Afrique. Avec approbation de l'ensemble des membres, le Cameroun s'est vu porté à la tête du conseil d'administration à travers le directeur général de CAMTEL.
C'est un privilège pour nous de pouvoir servir cette institution africaine. Évidemment, comme toute institution, il y a plusieurs challenges à relever et nous sommes convaincus qu'avec le nouveau souffle qui vient d'être donné à cette organisation avec l'élection du président du conseil ainsi que du vice-président du conseil, M. Siaka Koulibaly, et la confirmation du directeur général, M. Ati Achon, poste de management de cette organisation, que nous allons prendre toutes les dispositions pour pouvoir redonner toute la dimension qui est celle du RASCOM, cette organisation panafricaine en charge des communications satellitaires en Afrique.
Avec cette nouvelle équipe, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à la RASCOM pour gérer et mettre le continent à l'abri des problèmes satellitaires pour une interconnexion plus efficace et économique. Siaka Koulibaly, nouveau vice-président du conseil d'administration de la RASCOM.
Nous comptons beaucoup sur les 44 pays membres pour soutenir RASCOM. Ceux qui pensent que RASCOM avait disparu, de leur dire aussi que RASCOM n'a jamais disparu et RASCOM est en train de renaître.
Les réflexions sur la prochaine session ont été engagées, mais les dates et le lieu restent encore à confirmer.
En religion, modernisation de l'action interreligieuse prônée par le Sidimuc, le coordonnateur général du Conseil des imams du Cameroun a échangé ce vendredi avec le représentant résident de l'IAI Cameroun, titulaire de la chaire UNESCO Accès TIC d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Au-delà d'une visite d'amitié, les deux personnalités ont évoqué la nécessité de renforcer leurs relations de collaboration et de coopération sur les défis de l'intelligence artificielle et la formation au TIC des leaders religieux. Les détails avec Agnès-Sylvie Nanzama.
Entre le Sidimuc et l'IAI Cameroun existe depuis des années déjà un partenariat fructueux en faveur de l'arrimage au TIC des dignitaires musulmans, mais au regard des mutations dans le secteur du digital et notamment l'avènement de l'intelligence artificielle, les deux parties veulent s'adapter à cette donne au-delà d'autres exigences d'accès au numérique des membres du Sidimuc. Le coordonnateur général, Dr Moussa Oumarou.
Au regard du défi de l'intelligence artificielle, il était important que les responsables des structures se rencontrent. C'est un défi international. On n'a pas mieux que l'IAI pour nous aider à édifier les leaders religieux, afin qu'ils puissent sensibiliser les fidèles sur la question.
Pendant près d'une heure, les échanges et la visite du siège permettront d'évoquer les points de la coopération à améliorer et saisir par la même occasion l'opportunité de la chaire UNESCO accès TIC d'Afrique centrale, souligne le titulaire de cette chaire, Armand Claude Abanda.
Grâce au partenariat qui pourrait s'établir avec la chaire UNESCO, nous allons faire en sorte que les imams puissent avoir la capacité pour utiliser le digital afin de devenir autonomes.
Il est question de pérenniser la formation des dignitaires musulmans au TIC, toute chose qui leur dotera des aptitudes pour la modernisation du concept de l'action interreligieuse prônée par le Sidimuc.
Le 24 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du bricolage. C'est une occasion de mettre en valeur l'importance du bricolage dans nos vies et de célébrer la créativité, le savoir-faire et la passion de nombreux bricoleurs. Des bricoleurs comme Catherine, Nadia et Sony, rencontrés par notre reporter. Tous partagent avec nous les bienfaits du travail manuel sommaire. Marlise et Noam Bargaoumou, de CRTV Centre.
Le bricolage est bien plus qu'une simple activité manuelle. C'est une forme d'expression personnelle qui permet à chacun de laisser libre cours à son imagination. Et Nama Marie Catherine est une bricoleuse dans l'âme. Aujourd'hui, cette passion lui a permis de trouver sa voie.
Je n'ai pas fait de très très longues études, mais je m'y connais dans beaucoup de choses où de temps à autre, moi-même, je fais mes petits bricoles. Je suis devenue une bonne décoratrice. Il y a des menus extraordinaires que j'ai appris de moi-même, au point où j'inculque cela à mes enfants et à mes petits-enfants.
Même chose pour Nadia Ibele, une passionnée depuis sa tendre enfance, à force de bricoler. Devenue femme, elle sait prendre soin de son intérieur.
J'étais passionnée du bricolage parce que j'étais jeune. Je savais transformer toute chose. Et aujourd'hui, en tant que maman, cela a créé en moi une passion où je suis devenue la femme multitâche de la maison.
Sonny Moïse Tchétché, avec sa résidence qu'il a surnommée la Villa Tchétchélienne, est considérée comme un expert en matière de bricolage. Il aime redonner vie et beauté à tout objet défraîchi.
Le matériel ici utilisé est un matériel que nous prenons partout. Des roues ont été coupées.
Nous les avons mises sur notre mur. Ça donne une certaine connotation à la beauté. Tout ce que vous voyez là, c'est du matériel de recyclage.
Il a fait de son espace un véritable paradis sur Terre. En ce 24 mai, journée mondiale du bricolage, parfois, il suffit d'un peu d'astuce et d'habileté manuelle. Alors tous et toutes à nos outils. Centre Marlise et Noam Bargaoumou, CRTV.
Reparlons à présent de la 52e édition de la fête nationale. La communauté camerounaise vivant au Royaume-Uni s'est jointe à celle du Cameroun tout entier pour célébrer l'unité nationale. Une réception a été offerte à cette occasion par le haut commissaire du Cameroun, Albert Fotabon, hier soir à Londres. Notre correspondante dans la capitale britannique, Evelyne Gangen, a assisté à la cérémonie. Voici son reportage.
Ils sont venus de toutes les nations, les quatre nations du Royaume-Uni, pour célébrer la fête du 20 mai. Avec un dénominateur commun au bout des lèvres, l'unité nationale.
C'est vraiment très important, ça nous rappelle les valeurs fondamentales sur lesquelles le Cameroun a été bâti, à savoir l'unité, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble.
Tout Camerounais qui partage l'amour de la patrie, du nord, sud, l'est, l'ouest, que nous célébrons l'unité et l'amour de notre patrie. Donc je me sens honoré de célébrer cet amour et cette unité.
Je suis très fier, ému d'être là et voir tous les Camerounais ensemble, vivre dans l'unité, dans l'amour.
La célébration a été aussi l'occasion pour le haut-commissaire Albert Fotabong de saluer le soutien et la contribution de la diaspora au développement du Cameroun. Les amis du Cameroun étaient aussi de la fête, une cérémonie qui s'est achevée par des danses folkloriques du terroir. Evelyne Gangen à Londres pour la CRTV.
Gardons un pied à l'étranger, mais cette fois au Tchad, après 3 ans d'une période dite de transition. Le Tchad, qui après donc une période dite de transition, a renoué avec l'ordre constitutionnel. Cela à la suite de l'élection présidentielle du 6 mai et au terme de laquelle Mahamat Idriss Déby, jusque-là président de la transition, a été élu président de la République du Tchad. Sylvain Yangman.
Le nouveau président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, élu le 6 mai dernier et qui a prêté serment au cours d'une audience au Palais des Arts et de la Culture, ex-palais du 15 janvier à N'Djamena, est le président de la 5e République. chef de l'État. Son investiture, le jeudi 23 mai 2024, permet au Tchad de mettre fin à une période dite de transition qui a duré 3 ans. Cela à la suite du décès de l'ancien président du Tchad, Idriss Déby Itno. Il y avait eu d'évolution anticonstitutionnelle. Le Tchad, le 5e pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Soudan et la Libye, soit 1 284 000 km², est le 20e pays le plus vaste au monde et occupe le 69e rang en ce qui concerne la population mondiale. 17 millions d'habitants, pratiquement la moitié de la population du Cameroun. Le Tchad, l'un des 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, zone CEMAC, n'a pas d'accès à la mer, est donc le premier pays en Afrique vers lequel le Cameroun exporte ses produits, soit 228 000 tonnes de marchandises exportées en 2021 pour un total de 90,6 milliards de francs CFA de revenus selon l'Institut national de la statistique. Le Tchad dispose des gisements d'or, de fer, de bauxite, de sel, natron, cuivre, étain, diamant, entre autres richesses. Des richesses à mettre désormais à profit, d'où la nécessaire ou l'impérative assise de la stabilité constitutionnelle.
Et nous voici en sport à 20h passées de 27 minutes. Jeux universitaires 2024, le coup d'envoi sera donné demain samedi à Garoua dans le Nord. La 24e édition annonce les couleurs d'un événement de haute facture. La frénésie s'empare des Garoua. Les fan clubs ont paradé ce vendredi dans toute la ville avant de rallier les services du gouverneur du Nord où ils ont fait étalage du riche patrimoine culturel du Cameroun. Et parmi les spectateurs émerveillés, notre reporter Iya Chamalim de CRTV.
L'esplanade des services du gouverneur à Garoua, transformée en un vaste site d'attraction culturelle par les étudiants des 22 délégations prenant part aux Jeux universitaires. Un florilège d'escapades permettant de magnifier le riche patrimoine culturel dévoilé à travers des prestations scéniques très relevées et les chants patrimoniaux exécutés par les étudiants. Sous la bannière des fan clubs, ils ont émerveillé le public de Garoua, sorti en masse pour communier avec eux. Devant le gouverneur Jean Abaté dit, les responsables de la FENASU, le professeur Boubacary Oumarou, recteur de l'université haute, et les juges évaluateurs, les fan clubs ont fait étalage de leur potentiel dans une démonstration grandeur nature. Léopold Tala, expert fan club à la FENASU.
Nous entrons dans la région pour annoncer à la population de Garoua qu'il y a un événement extraordinaire. Nous avions commencé ce matin à 6h par le carnaval.
De l'authenticité des animaux et objets d'art, en passant par les sonorités des 4 aires culturelles du Cameroun, ces étudiants confortent non seulement la réputation de Garoua d'être un creuset du vivre ensemble, mais aussi le lien très étroit entre le sport et la culture. Garoua, Iya Chamalim, CRTV.
Et l'université de Yaoundé 2 voudrait s'offrir la première place du podium au terme des Jeux qui sont également une opportunité d'affirmation de la nouvelle dynamique en marche à soi. C'est l'essentiel du message du recteur de cette université, le professeur Laurent Richard Ongba, que je vous propose d'écouter, propos recueillis au téléphone par Samuel Billon.
Le ministre m'a personnellement dépêché ici pour que je vienne porter à l'attention des promoteurs de cet institut son message de félicitations et d'encouragement. Voilà l'institut qui a été créé il y a à peine 7 ans, qui a déjà 5 campus, près de 3000 étudiants et qui a déjà réussi à se hisser au premier rang des instituts privés d'enseignement supérieur à travers l'examen du brevet technicien supérieur. Et il salue le fait que cet institut polytechnique soit implanté à Konon, ville historique, ville dont l'histoire intellectuelle est bien connue. Il pense donc que cet institut vient compléter l'architecture intellectuelle de la ville qui part du primaire jusqu'au supérieur.
Ce week-end sportif nous amène aussi au palais polyvalent des sports de Yaoundé avec le tournoi de Handball Trophy Challenge Zone 4 Afrique centrale qui s'achève ce samedi. L'on vivra également la clôture de la Guinness Super League 2023-2024 avec en toile de fond le dénouement de la course au titre entre l'Équipe Football Fille et FC Ebolova. Russell Oriani dévoile l'affiche sportive du week-end.
Le coup de sifflet final du Trophy Challenge Zone 4 Afrique centrale va retentir ce samedi sur le parquet du Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Au programme, des matchs du classement et des finales dans les catégories U18 et U20. Les Lionceaux des moins de 18 ans vont affronter les Diables Rouges issus du Congo-Brazzaville. Le Cameroun, dont le bilan se résume à 2 victoires et 1 défaite jusqu'ici, va aborder la confrontation avec l'expérience d'une finale perdue en 2018. Vent de clôture en Guinée Super League, le rideau tombe sur la 4e édition ce samedi sur la pelouse du stade Ngouaïkélé. Au sommaire de ce clap de fin, 2 rencontres capitales. L'équipe Football Fille affronte l'équipe d'Eding. Choc en ouverture, suivi du Guinnessico AS Fortuna FC Bolova. Ces rencontres sonnent le glas du chassé croisé au sommet du championnat, l'épilogue d'une haletante course au titre entre l'équipe 2e du classement, tenant du trophée, et FC Bolova, leader du championnat. Les 2 équipes rivales ont 53 points chacune. La Coupe du Cameroun de football amorce le stade des 16e de finale ce samedi. Le centre technique de la FECAFOOT et le centre d'excellence de la CAF sont les surfaces de jeu retenues pour l'occasion. À suivre, la confrontation Stade Renard de Melon, Union Sportive de Douala, à 15h30 au centre d'excellence de la CAF à Bankomo.
À retenir de ce 20h qui se referme, les mines avec la 4e convention internationale et exposition qui s'est refermée ces jours à Yaoundé. Un seul vœu à l'issue de cette rencontre qui a mobilisé 50 pays dans la capitale camerounaise, l'industrialisation du secteur minier au Cameroun. Un autre événement d'envergure que le Cameroun s'apprête à abriter, c'est la 30e Assemblée parlementaire d'Afrique francophone en abrégé APF. C'est du 28 au 30 mai prochain. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Itan, a donné une conférence de presse ces jours à Yaoundé. Objectif, dévoiler le thème et les contours de l'événement. En sport, Jeux universitaires 2024, le kick-off c'est demain samedi. La ville de Garoua vibre déjà au rythme de l'événement. Vous avez eu les premières ambiances dans cette édition. Technique, Mathieu Benoun. Réalisation, Fatime Bintou Akoum. Coordination, Serge Fasgué. À la présentation, je suis Charles Labosoloba. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien à l'écoute des programmes du poste national de la CRTV.